بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفعان الإسلام نسمى ينسمن exact du mois béni de Ramadan. La semaine dernière, on a eu l'occasion d'entrevoir un petit peu le hadith de lequel le prophète alayhi salatu wassalam annonçait les points les plus importants concernant le mois béni aux sahaba. Alors que, comme on l'avait dit la dernière fois, les sahaba étaient les plus grands savants. Il n'y avait pas plus grand alim que les sahaba. Il n'y avait pas personne plus muttaqi, plus pieuse que les sahaba. Il n'y avait personne qui avait autant de crainte d'Allah que les sahaba. Il n'y avait pas une personne qui savait autant l'importance du temps et de profiter de chaque instant que les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Mais malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam le faisait ce rappel. Parce que l'homme a besoin de rappel. Et le fait que le prophète a fait ce rappel aux sahaba, ce hadith a été transmis de génération en génération jusqu'à nous parvenir. Et nous aussi, à l'aube du Ramadan, à quelques jours du mois béni, on a besoin de rentrer dans le bain. On a besoin de prendre conscience, de rafraîchir un petit peu les informations que nous avions déjà développées. L'année dernière, on était conscient du mois béni, mais lorsque le temps passe, on finit par perdre l'importance de ce genre d'événement. On finit un peu par oublier pourquoi est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous sauver. Et on ne peut pas se permettre d'apprendre, comme on dit, sur le tas. On ne peut pas se permettre d'entrer dans le Ramadan et ensuite, comme on dit, on prend la température et après on verra comment est-ce qu'on oriente, comment est-ce qu'on organise nos joies. Ça, on ne peut pas se le permettre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se le permettre? Parce que chaque instant de ce mois béni, Wallahi al-Azim, c'est un cadeau de la part d'Allah. Chaque instant de ce mois béni, c'est d'une importance. Et nous ne retrouverons jamais l'équivalence de cette qima, de cette importance, de cette valeur durant les autres périodes de l'année. La semaine dernière, en sortant du programme, c'était la semaine dernière, quel que soit le jour, un des programmes, j'ai rencontré un jeune qui m'a interpellé dans la rue, et c'était un jeune reconverti à l'islam. C'est un jeune qui avait embrassé l'islam il y a quelques mois, et il me parlait un petit peu de sa famille, de sa vie, de sa situation depuis sa reconversion à l'islam, et il m'a dit une parole qui m'a profondément touché, et c'est une parole très sincère, c'est une parole tellement sincère que ça a touché, ça a atteint son objectif immédiatement. Et il m'a dit que c'est la première fois que je vais vivre un Ramadan en tant que musulman, bien sûr c'est la première fois que je vais vivre un Ramadan, et j'attends ce mois béni avec impatience. Il a dit j'attends, je compte les jours quand est-ce que le Ramadan commence, parce qu'il a envie de faire plein de bonnes choses, il a envie de faire beaucoup d'efforts, il a envie vraiment de montrer tout ce qu'il peut faire sur le plan spirituel et de donner le meilleur de lui-même. C'était des paroles tellement, tellement sincères, et on pourrait peut-être dire un peu naïves aussi, parce que, de certaines façons, ce sont des intentions qu'on ne dévoile pas. Normalement, on est sincère, on ne dit pas « je fais telle chose », mais étant nouveau dans l'islam, il a dit avec sincérité et honnêteté comment est-ce qu'il attend ce mois et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Pour lui, vraiment, c'est comme si que ce mois, ça va le sauver. C'est exactement les termes qu'on essayait de faire passer la dernière fois, que ce mois de Ramadan est là pour nous sauver. Et lui, il l'a dit qu'il attend, et ce mois de Ramadan va combler ses erreurs, va lui permettre de prendre les bonnes habitudes, de recadrer ses prières. Et subhanallah, le mu'min doit attendre le mois béni exactement comme le sahaba l'attendait, et par décalage, ce jeune qui attend, nous devons avoir cette même motivation, notre cœur doit palpiter en attendant la venue du mois béni. Ce qu'on avait rappelé la dernière fois, c'était que le mois béni est un mois de baraka, de bénédiction, un mois de rahma, de clémence, un mois où Allah pardonne les péchés, un mois où Allah accepte les du'as, un mois où Allah Azza wa Jal est fier de nous auprès des anges. Lorsqu'Allah Rabbul Izza voit ses serviteurs accomplir de bonnes actions et rester éloignés des péchés. Et le prophète alayhi salatu wassalam, en conclusion, avait dit aux sahaba, fa addu fihi, maintenant donnez le maximum de vous. yanfusikum khayra, donnez le maximum de vous, faites le maximum d'efforts durant ce mois béni. Et sans le moindre doute, les sahaba, lorsqu'ils entendent ce genre de message, qu'est-ce qu'ils se disent intérieurement? Sami'na wa ata'na, immédiatement. Ils écoutent et ils vont le mettre en application immédiatement. Et dans un second hadith, ça on n'a pas eu le temps de développer la dernière fois, on avait là d'un côté le targhib, l'annonce de bonnes nouvelles, et maintenant la mise en garde. Pour ça, on parle maintenant de l'homme ash-shaqi, l'homme malheureux, l'homme le plus malheureux, c'est-à-dire durant ce mois. Man hurima fihi rahmatullah, c'est celui qui se voit privé de la clémence d'Allah. Alors qu'on a dit que la clémence d'Allah, elle descend sur la umma, mais il suffit de la réclamer pour l'obtenir. Maintenant, celui qui reste dans son coin, qui ne change pas ses habitudes, qui se contente juste des prières, comme il le fait tout le temps, et qui ne passe pas un cap, qui ne monte pas d'un degré, qui ne monte pas d'un palier sur le degré de pratique, mais c'est quelqu'un qui, malheureusement, passe à côté de ce mois de Ramadan. Et on va essayer de voir, peut-être pas tout de suite, mais peut-être lundi prochain, si ce n'est pas encore le mois béni, ou alors même si on a trouvé la lune, ce sera le premier Tarawih, on fera une petite explication, quelles sont les actions que nous devons faire en priorité. Mais j'aimerais juste qu'on revienne sur les quelques points. Concernant le Tawbah, je ne sais pas si on avait développé, je ne me rappelle plus où est-ce qu'on s'était arrêté. Premier point, qu'Allah pardonne durant ce mois béni. Il y a des versets qui prouvent qu'Allah Azza wa Jal pardonne l'intégralité des péchés de l'être humain, bien sûr, à part le shirk. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tout. Pourquoi? Allah pardonne tous les péchés. Pourquoi? Innahu huwa al-ghafur rahim. Parce qu'Allah, il est le pardonneur et le clément. Et personne n'a le droit de douter de la clémence d'Allah. Personne n'a le droit de se poser des questions, de douter, de se dire que j'ai fait trop d'erreurs, ou mon parcours jusqu'à maintenant est entaché d'erreurs, de péchés, même si c'est des guna kabira, même si c'est le zina, même si c'est l'adultère, même si c'est des sorties en boîte de nuit, même si c'est de la consommation d'alcool, quel que soit le degré de péché, tant que ça n'atteint pas le shirk, il suffit qu'un croyant revienne vers Allah sincèrement, avec amour, avec dévotion, avec humilité, avec sincérité, et il demande à Allah Azza wa Jal sincèrement pardon pour ses erreurs, qu'Allah est capable de pardonner. Et dans certains textes, il est dit, وَلَوْ كَانَ مِثْلُ, même si les péchés pouvaient atteindre زَبَدُ الْبَحْرِ, autant d'écume qu'il y a dans les mers, أَوْ عَدَدُ الرَّمْلِ فِي الصَّحْرَى, ou le nombre de grains de sable dans le désert. Je ne vous dis pas sur la plage, parce que la plage est quand même limitée. Mais quand on parle de désert, ça peut être des milliers de kilomètres carrés. C'est infini. Combien de grains de sable il y a? Mathématiquement, on ne se pose pas la question. Il n'est pas un homme intelligent, celui qui essaie de compter, ne serait-ce que le nombre de grains de sable que peut contenir une poignée. Ce serait un homme insensé qui a du temps à perdre. C'est impossible. Ça n'apporte rien. Mais cette métaphore, vous savez, les métaphores utilisées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas juste pour impressionner. Ce n'est pas là juste pour tenir un discours, pour capter l'attention des sahaba. Là, wallah, chaque métaphore, chaque parabole, chaque exemple utilisé par le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a son pesant en valeur et en réalité. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du hajj, il dit que celui qui retourne du hajj, c'est comme un enfant qui vient de naître. C'est la réalité, c'est de cette façon que le croyant revient du hajj. Donc c'est des métaphores qui sont poussées à l'extrême. On ne pouvait pas trouver métaphore plus adaptée, plus forte, plus percutante. Et ça, c'est une des qualités qu'Allah a accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc quand le prophète parle de autant de péchés qu'il n'y a d'écume dans les mers ou de grains de sable dans le désert, c'est là une réalité. Ce n'est pas là juste, c'est pas de la prose, c'est pas de la poésie, c'est pour qu'on réalise vraiment. Et quand le prophète prend cet exemple, c'est parce que les sahaba, leurs pieds sont posés où ça? En permanence, sur du sable. Ils vivent dans le désert, ils savent c'est quoi le désert. Ce sont des exemples qui permettent à celui qui est interpellé de comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que l'exemple interpelle ta compréhension, ta logique, ta connaissance des choses. À partir de ta connaissance, tu comprends le sens qui est véhiculé. Et c'est le sens le plus profond. Qu'est-ce qu'il y avait de plus étendu dans la péninsule arabe et qui était palpable, qui était accessible? C'était le sol avec son sable. Et le prophète donne cet exemple. Autant de grains de sable qu'il y a dans le désert, si vous avez autant de péchés, Allah est capable de les pardonner intégralement. Et nous devons avoir une conviction yaqin sur la clémence d'Allah Azza wa Jal, sur le fait qu'il est pardonneur. Et comme on a dit ça, je tiens à le répéter parce qu'il y a des fois où les, entre guillemets, les religieux, entre guillemets, parce que dans le fond, Allah seul sait, celui qui est religieux, ça ne se mesure pas à la longueur de la barbe, ni à la couleur du thawb, ou autre chose, ni au signe de prosternation, forcément, il y a d'autres choses. Et Allah seul, et heureusement, Allah seul sait ce qu'il y a dans le cœur. Allah seul sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne. Et donc, parfois, on a des religieux qui ont tendance à juger les personnes qui viennent à la mosquée uniquement durant le mois béni. Ils se disent que, ben voilà, là, le Ramadan, la saison est ouverte, là, il vient et puis il va déguerpir quand on trouve la lune. Ah, c'est comme ça, c'est son cinéma tous les ans. Ça, ce genre de parole, ça peut nous précipiter dans le fond du Jahannam. Ce genre de parole, ça peut nous faire chuter du plus haut degré, ou peut-être qu'on a vraiment bien avancé spirituellement, mais douter des gens. Déjà, Allah ne nous a pas demandé d'enquêter sur les gens, ni d'essayer de scruter et de connaître ce qu'il y a dans leur cœur. On a d'autres choses à faire, oui ou non? Wallahi, on a plein d'autres choses à faire. Et deuxièmement, ce genre de parole, ça remet en doute, ça remet en question, ça met en doute, ça remet en question la capacité, j'aime pas utiliser le qudrat, et le maghfirat d'Allah Azza wa Jal, le pardon divin. Donc, en aucun cas, on a des doutes sur nous-mêmes, sur notre relation avec Allah, on est parti trop loin, c'est trop tard, ce serait hypocrite de revenir à la mosquée maintenant, aucunement. Vous savez, le seul qui aimerait qu'on doute de ce mois béni et de l'apport de ce Ramadan, c'est qui? C'est le diable. C'est Iblis. Parce que durant le mois béni, il n'a pas accès à nous. Oui ou non? Ça fait partie des points qu'on... Mais là, on développera. Durant le mois béni, il est enchaîné. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder, ces waswasa, ces insufflations, n'atteignent pas l'homme. Il ne peut pas agir. Donc, il aimerait préparer le terrain avant. Et puis, on verra par la suite comment est-ce qu'il arrange le terrain après. Comment est-ce qu'il aimerait ensuite nous faire perdre les acquis? Ça, c'est un autre sujet. Mais il aimerait que l'homme aborde le mois de Ramadan avec doute, suspicion. Et il n'a pas envie de se donner à fond parce qu'il doute de lui-même. On doit écarter ces deux. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Et se dire qu'Allah est clément, sa miséricorde couvre la Ummah. Je fais partie de la Ummah. Si Allah m'a choisi pour faire partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'Allah même, autrement il ne m'aurait pas mis dans cette umma, et donc j'ai droit d'une certaine façon, je peux bénéficier de cette clémence, parce que cette clémence elle est générale durant ce mois béni. Donc le tawba, il y a des versets qui vont dans ce sens, mais que les savants disent, mais le pardon d'Allah durant le mois béni, ça dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Son pardon durant ce mois béni, ça dépasse son pardon durant les 11 autres mois de l'année. Donc, c'est la plus bonne nouvelle que nous pouvons avoir du mois béni. Après, par la suite, peut-être nous aurons l'occasion de développer les conditions, bien sûr, pour qu'une personne voit sa demande de pardon acceptée par Allah. Donc, il faut qu'il soit sincère, il faut qu'il regrette le péché et qu'il fasse l'intention ferme de ne plus recommencer. Et ça répond aux approches un peu biaisées de certaines personnes concernant le mois béni, soit à propos d'eux-mêmes, soit à propos des autres, et se disent que voilà, telle personne, toute l'année, le samedi soir, il est en boîte de nuit, il est avec les filles, il boit de l'alcool, il fait telle chose, et durant le mois béni, il devient comme un homme pieux, un muttaqi, il est dans la mosquée, et après le Eid, il va retourner en boîte. Donc, ça sert à quoi tout ça? Donc, ça, c'est de mauvaise pensée, parce qu'on ne peut pas juger les gens. Et la personne également, qui, imaginons, a cette intention, il se dit, il a cette conception de la religion que, certes, le mois béni, c'est un mois où Allah pardonne. Donc, si j'ai fait des bêtises toute l'année, c'est pas grave. C'est la grande machine annuelle. Et mes péchés seront pardonnés. Je ressors blanchi et je recommence mes péchés. Et l'année prochaine, je vais recommencer, ainsi de suite. Première question. Qui te dit que tu vis jusqu'à l'année prochaine? Qui te dit qu'il n'y a pas une coupure de courant à 11 mois et que tout le linge sale reste dans la machine ou cumulé? Donc, tu meurs avant le prochain Ramadan. Et autre point, et c'est ça le plus important, parmi les conditions du tawbatul nasuha, c'est un nadam, regretter. Et les regrets, c'est avec la langue, avec les membres ou avec le cœur? C'est avec le cœur. Et on ne trompe pas le cœur. On peut faire voir n'importe quoi à n'importe qui, tromper qui on veut, mais on ne trompe pas son cœur. Soit on regrette, soit on ne regrette pas. On ne peut pas faire semblant de regretter. On ne peut pas faire semblant de regretter. Tu peux dire des choses à ton épouse, par exemple. Par exemple, tu as mal parlé, tu dis non, je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça, je ne pensais pas. Mais intérieurement, tu dis, c'est ça, c'est ma ligne de conduite, je pensais, et c'est inacceptable. Tu peux dire des paroles, mais intérieurement, tu n'y crois pas. Mais dans ton cœur, pour toi-même, tu ne peux pas faire semblant de regretter. Ça fait partie des choses impossibles. Et alhamdoulilah, c'est impossible. Donc, soit dans ton cœur, tu regrettes, Et là, sache que ton pardon est accepté et tu n'as pas le droit de douter que ton pardon est accepté, agréé par Allah. Ou alors dans ton cœur, tu dis, Wallah, je regrette et tout. Tu demandes à travers tes doigts, tu demandes, mais intérieurement, tu ne regrettes pas. Et tu repenses à ces moments passés avec un tel ou dans tel endroit, comment tu t'amusais. Et que dans ton cœur, deuxième chose, al-azmo. On doit avoir l'intention ferme de ne plus recommencer le péché. Oui ou non? Mais là aussi, le cœur, il sait ce qu'il pense, lui. Le cœur ne peut pas regretter et avoir l'intention ferme de ne plus recommencer. Et en même temps, avoir une petite lucarne d'espoir que peut-être qu'on reprend et puis on reviendra dessus. C'est pas possible. S'il n'y a pas 100% de conviction dans ton cœur, le tawba n'est pas accepté. Et Allah est le seul juge. Et Allah est le seul juge. Deuxième point. Donc les savants, ils ont des citations qui sont magnifiques. On ne peut pas tout raconter en une séance. Ils disent que c'est vraiment le moment de reconstruire une relation avec Allah. Et pour reconstruire une relation avec Allah, il faut d'abord nettoyer, enlever les erreurs de parcours qui sont les péchés. Et ce mois, c'est le mois propice pour revenir sur tout ce qu'on a pu faire comme erreur et prendre un nouveau départ. Et Allah, le Khaliq, il peut nous donner une nouvelle chance autant de fois qu'on le demande sincèrement. Un être humain ne nous donnerait pas à plusieurs reprises une seconde, une troisième, une quatrième chance. Si vous avez fait des bêtises et que madame vous a mis dehors, de nos jours c'est comme ça, hein. C'est madame qui met dehors. Bref, vous demandez pardon, j'ai fait quelque chose, t'es pas bien, je regrette, pardon. T'es dit, c'est bon, recommence, tu peux habiter avec nous, ça va. Tu recommences la même bêtise 6 mois plus tard. C'est pas dit qu'elle accepte de nouveau. Soit de te laisser entrer dans la maison, ou alors qu'elle revienne sous le toit. Au bout de 3 fois, c'est fini, c'est terminé. Aucun être humain, même si elle est très attachée à toi, même si vous avez 15, 20, 30 ans de mariage, l'homme a ses limites. Mais notre Rabb, notre Seigneur, sa clémence est sans limite. Son pardon est sans limite. C'est pour ça que le Ramadan, vraiment, c'est le Eid du croyant. Avant de parler du Eid al-Fitr, le mois béni, c'est vraiment le Eid. C'est le moment de recommencer, de prendre les bonnes résolutions et de démarrer une nouvelle relation avec Allah. Et cela doit obligatoirement passer par l'étape, la première étape qui est istighfar, pardon pour les péchés. Ensuite, tu poses les nouvelles bases. Qu'Allah nous accepte pour ça, Inch'Allah. Deuxième action sur laquelle on aimerait insister très rapidement, c'est multiplier justement les bonnes œuvres. Préparer. On ne peut pas se permettre de démarrer et voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est dès maintenant, on doit essayer de faire, un tableau, mais c'est un peu exagéré, mais on essaie de dresser une liste de bonnes actions que je peux caser dans des créneaux où je suis disponible. Je sais que je rentre au travail ou au lycée 8h jusqu'à midi et tout, bon, ça c'est des créneaux compliqués. Mais l'heure du suhur, de la fin du subh sadiq jusqu'à la prière de Fajr, après la prière de Fajr jusqu'au lever du soleil, et ainsi de suite, le break entre midi et 2, le retour du travail ou du lycée ou de l'université jusqu'à Maghreb, et ainsi de suite, on doit essayer de programmer des actions à accomplir durant ces créneaux. Très important de programmer de façon intelligente ces bonnes œuvres. Et pourquoi il est important de programmer? Premièrement, avant de parler même de la réalité des actions, quand tu as l'intention de faire, ça s'appelle comment ça? Niyya, oui ou non? Ben oui, on a dit intention. Et innamal a'malu niyya. Les actions ne valent que par les intentions. Premièrement, c'est-à-dire que quand tu prépares, tu as l'intention de faire, c'est déjà une preuve de sincérité, oui ou non? Le Ramadan n'est pas commencé, tu as déjà l'intention de dire que voilà, après le souhour, le repas, je viens à la mosquée. Je ne vais pas m'allonger, décompresser un petit peu parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe. Tu t'allonges un instant, tu lèves les yeux, tu ouvres les yeux, lever du soleil, t'as raté le fajr, le mois béni, tu es vraiment spécial. D'accord? Pour pas dire autre chose, malchanceux. Tu t'enfonces toi-même. Bref, on prend la résolution que, Inch'Allah, là, cette année, quand le repas du suhoor est fini, je me prépare, je vais direct à la masjid. Il y a un petit battement de 20 minutes. Ou 30 minutes, on va dire, avant le début de la salah. Donc là, je peux lire un juz. Quand la salah est finie, et ainsi de suite. Quand tu prévois ces bonnes actions, c'est déjà dalil ala l'ikhlas. C'est déjà une preuve que tu es sincère, tu as envie de le faire. Deuxièmement, celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action, Allah ordonne aux anges d'inscrire pour lui la bonne action immédiatement, avant même que la personne ne l'ait accomplie. Ça, c'est karam d'Allah. générosité d'Allah toute l'année, ça, tout le temps. Tu as l'intention, tu dis, je vais faire comme ça, telle action, de telle façon, à telle période. Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans ton cœur. Surtout, ne le dites pas fort. On n'a pas à dire aux gens, on reste sincère, mais tu penses dans ton cœur, on peut cogiter en quelques secondes, hein, quelques intentions, quelques objectifs que je me fixe. Allah voit la sincérité de ton cœur. Allah demande aux anges d'inscrire la bonne action, même si tu ne l'as pas encore accompli. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt la veille du Ramadan, ben, tout ce qu'il avait l'intention d'accomplir, Inch'Allah, Inch'Allah, on s'en remet à Allah, ce sera Inch'Allah dans son livret de compte. Et le hadith stipule, s'il l'accomplit ensuite, Allah lui accorde 10 fois plus, voire beaucoup plus en fonction de différents paramètres, sincérité, comment est-ce qu'il s'investit, le contexte, ainsi de suite. Et Allah seul sait comment il rétribue. Mais le fait de faire l'intention, c'est une preuve qu'on est sincère. Et deuxièmement, on a déjà une partie de la récompense. Et lorsque l'intention est faite, qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement après? On doit faire doua, demander à Allah de nous donner tawfiq de le faire, de nous accepter pour le faire. Et parmi le tawfiq, c'est qu'Allah te donne les conditions pour le faire, que tu sois en bonne santé déjà, que tu sois présent et que tu aies la force mentale, spirituelle, psychologique, que tout va bien et qu'Allah t'accepte, parce que personne ne se prosterne s'il n'a pas été accepté par Allah. Personne ne lit kalamullah, la parole d'Allah, s'il n'a pas eu l'autorisation d'Allah. On a besoin de demander droit et demander à Allah, d'une certaine façon, l'autorisation et l'acceptation pour faire ces bonnes choses. Et ensuite, Inch'Allah, on peut entrevoir le début du Ramadan sereinement. Et on se rappelle quand le prophète me dit en conclusion, montrez à Allah tout ce que vous pouvez faire comme bonnes œuvres. Montrez votre sincérité, votre dévotion, votre motivation, votre soumission à Allah. Et à travers chaque bonne action, je ne le fais pas de façon mécanique. La lecture du Coran, ce n'est pas une lecture qui est mécanique. La prière, ce n'est pas juste une question de gestuelle. Sans ces bonnes actions, il faut qu'il y ait un feeling. Il faut que tu ressentes intérieurement que ça, c'est une soumission à Allah. Quand on lit le Coran, mets-toi dans des conditions, ressens que c'est un grand honneur. Tu vas lire la parole qu'Allah a révélée à l'ange Jibril qui a ramené au prophète alayhi salatu wassalam ce Coran qui est kalamullah, qui restera éternel jusqu'au qiyama, ainsi de suite. Essaie de ressentir l'azama, l'importance de l'action. Quand tu pries, essaie de réaliser que je me tiens devant Allah. Je me prosterne pour Allah. Je suis en train de faire la génuflexion, le ruku' pour Allah. Essayons d'avoir une approche spirituelle réfléchie des bonnes œuvres. Ça nécessite parfois quelques secondes de mise en condition avant l'accomplissement de l'action, réaliser qu'est-ce qu'on va faire comme bonne action. Point suivant, troisième point, essentiel durant le mois béni, celui qui passe à côté de ce point, on pourrait dire très clairement qu'il passe à côté de son Ramadan. L'éloignement de tout péché. As-sabru anil ma'asi. S'éloigner du haram. Parce que celui qui s'éloigne du haram, ça, c'est un signe d'un jeûne qui est accepté. C'est un signe qu'il a fait des efforts. C'est également un signe qu'il est en train de construire son capital taqwa. Parce que la piété, on en avait parlé de Riyadus Salihin, on ne pourra acquérir la piété tant qu'on ne délaisse pas les péchés. Accomplir les bonnes actions, c'est accessible à beaucoup de gens, alhamdoulilah. Mais ensuite, faire l'effort pour s'éloigner des péchés, c'est quelque chose qui demande un grand sacrifice. Et celui qui arrive à le faire, c'est qu'il est en train de lutter contre son nafs, et il lutte contre son nafs pour qui? Pour Allah. C'est-à-dire qu'il est en train de mener un combat contre les waswasa de shaitan, contre son nafs, pour faire plaisir à Allah. Et ce sacrifice-là, il est apprécié, il est aimé par Allah Azza wa Jal. Également, les savants donnent la définition du jeûne. Quand on jeûne, ce n'est pas uniquement l'estomac qui jeûne, bien sûr. C'est un peu long à développer. On en est à combien de minutes là? 24, encore 5, 6 minutes, Inch'Allah. On parle de saumul qalb. C'est le cœur qui jeûne en premier. C'est-à-dire que le cœur, on le remplit de sincérité. On enlève l'orgueil, l'ostentation, les mauvaises pensées, la jalousie. On essaie d'avoir un cœur propre, rempli d'amour pour son prochain, et le fait de donner l'aumône, ça c'est un autre chapitre qu'on ne voit pas tout de suite, le fait de donner l'aumône, c'est un ilaj, on pourrait plutôt dire, un ilaj c'est un remède, c'est une thèse qu'il y a, c'est une purification pour le cœur. Tout ce qu'il y a de sale dans le cœur, donne l'aumône, parce que l'aumône c'est une lutte contre toi-même. Il n'y a rien qui est plus cher à l'homme que ses biens, son argent. Mais donne ce que tu aimes le plus, tu es en train de lutter contre tout ce qui est négatif dans ton cœur. Donc, le jeûne, c'est le cœur également qui jeûne. Avoir un cœur ouvert, rempli d'amour pour Allah bien sûr, ensuite rempli d'amour pour son prochain. Quand on jeûne, quand on parle de s'éloigner des péchés, c'est également sawmul lisan, bien sûr. La langue également doit jeûner. Et en lisant encore ce hadith sur, bon c'est pas très noble, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui mettent des hadiths parfois sur Facebook, et on lit, il y a des fois où on trouve des paroles intéressantes, et on a vu ce hadith, et c'est profitable que... Il y a des gens qui seront précipités. Il y a beaucoup de gens qui sont précipités au plus profond de l'enfer à cause du résultat de leurs paroles. Une personne peut être, mashallah, régulière dans ses prières, ainsi de suite, mais parfois on dit une parole déplacée et tellement, tellement violente, tellement méchante, qui déplaît Allah Azza wa Jal, qu'Allah décide de nous faire chuter de grade et qu'Allah protège. C'est pour ça que le prophète avait tenu sa langue, avait dit que protéger la langue. Il n'y a rien de plus important que de protéger ça. Donc, en état de jeûne, on évite au maximum, ça c'est un conseil personnel, on évite les assemblées d'amis. Il n'y a pas besoin de parler avec les amis. On évite de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, sur les échanges de groupes WhatsApp, ainsi de suite. On essaie vraiment de se concentrer parce que, à partir du moment où on parle du dunya et de tout et de rien, il y a toujours un risque de déraper vers le riba, vers la médisance, la calomnie ou des paroles qui sont mauvaises. Donc, on se fixe un objectif, on contrôle sa langue au maximum. Également, et bien sûr, et c'est un grand, c'est le grand mujahada à notre époque, surtout pour les messieurs, c'est sawmul ayn, faire en sorte de jeûner également avec ses yeux. On a tous compris, c'est le contrôle du regard. Et le contrôle du regard au 21e siècle, ici à La Réunion, on peut dire que ça a beaucoup de valeur. Beaucoup plus de valeur que dans un pays où les femmes se couvrent correctement. Si vous habitez, si vous êtes en Umrah, à Makkah ou à Madina, durant le mois béni de Ramadan, baisser le regard, ça va être quelque chose de tout à fait normal. Mais baisser le regard ici, à La Réunion, à Saint-Denis, ou à Paris, ou des endroits, en plus en métropole, sera l'été, et ainsi de suite, c'est là un grand mujahada. C'est un effort, et celui qui arrive à le faire, c'est vraiment qu'il aime Allah. Celui qui arrive à contrôler son regard, c'est vraiment une preuve qu'il aime son Seigneur. Il y a des fois où on se pose la question, où on se remet en question, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me concentrer dans la prière? C'est un gros problème. Et beaucoup de gens posent cette question, pourquoi est-ce que malgré le fait que je sois régulier dans mes salats, je ne trouve pas la dévotion, la concentration? Certains savants disent que tu as une épreuve dans la vie de tous les jours. C'est le contrôle de ton regard. Si tu es capable de te soumettre à Allah dans ces situations, sans le moindre doute, cet effort portera ses fruits quand tu es devant ton Seigneur. Et tu trouveras la quiétude, la dévotion et la concentration. Mais si durant 12 heures ou 13 heures de la journée, tu cumules les péchés, parce que chaque regard non contrôlé, c'est un péché. Si tu cumules ce genre d'erreur, tu montres à ton Seigneur que tu n'es pas prêt à faire le moindre sacrifice pour lui. Mais quand tu es face à lui 5 minutes ou 10 minutes, n'attends pas non plus des miracles spirituels. Parce que tu n'as pas habitué ton cœur à se soumettre à Allah. N'attends pas une soumission magique quand l'imam dit Allahu Akbar, immédiatement ton cœur se soumet à Allah pendant 5 ou 10 minutes ou pendant les prières de Tarawih. Donc si on fait cet effort en dehors de la prière, on trouvera, Inch'Allah, on a l'espoir de trouver cette dévotion et cette concentration durant la salah. Et dernier point, on va terminer avec ça. Ce que les savants donnent comme conseil également, c'est une réforme spirituelle. Donc ça, c'est au niveau du cœur. Ce sont des résolutions qu'on doit essayer de prendre ou un certain état d'esprit qu'on doit essayer de développer. Moi, j'appellerais ça plutôt un éveil spirituel. On doit arriver à un éveil spirituel qui nous permet de voir avec les yeux du cœur ce mois béni et de comprendre avec le cœur les actions qu'on fait durant ce mois béni. Pour que ce ne soit pas quelque chose de mécanique, encore une fois, quelque chose comme une routine qu'on ne fait que répéter du matin au soir. Premièrement, voici en résumé les qualités qu'on doit essayer de développer. Muraqabatullah. On avait beaucoup insisté là-dessus dans le deuxième bab ou troisième bab de Riyad al-Salihin. La pensée permanente d'Allah. Être conscient qu'Allah me voit à chaque instant. C'est quand on pense et quand on est conscient qu'Allah nous voit, automatiquement on délaisse ses péchés. Je vous donne un exemple très simple. Pourquoi est-ce qu'une personne ne penserait jamais à se cacher? C'est l'exemple classique qu'on donne durant Le Ramadan, surtout, on explique aux enfants à la madrasa pourquoi est-ce qu'il ne nous passerait jamais par l'esprit de nous enfermer dans une pièce, d'éteindre la lumière et de manger quand on est en état de jeûne et on se dit que personne ne me voit. Pourquoi? Parce qu'on sait que quel que soit l'endroit où on se cache, qui est-ce qui nous voit? C'est Allah. Donc, d'une certaine façon, par rapport aux limites du jeûne, on a cette muraqabatullah. Il y est, c'est naturel, ça fait partie de la foi. Si on ne pensait pas comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'iman dans le cœur. C'est-à-dire que cette base de muraqabatullah, il est dans le cœur de chaque croyant. À nous de travailler, de le développer, de monter en niveau. De quelle façon? Ben, autant on est conscient que je ne peux pas boire ou manger après Zohar pendant le mois béni parce qu'Allah me voit, même si je me cache des hommes, mais Allah me voit, ben, de la même façon, face à n'importe quelle tentation, face à n'importe quel péché, on se dit qu'Allah me voit. Ça, c'est le principe, c'est la base de muraqabatullah. Essayons de le développer à chaque fois qu'on est face à un péché, et Inch'Allah, on trouvera l'aide d'Allah, et surtout, on trouvera un sens. Ce qui était important, c'est de donner un sens. C'est pas juste de dire que c'est haram, ne le fais pas. Donne un sens à cela. Intègre le fait que si je fais, Allah sera mécontent de moi. Un exemple. J'ai discuté une fois avec un exemple un peu décalé, avec un diplomate qui était venu pour faire les visas du Hajj. On passe du Ramadan au Hajj. Il y a 2-3 ans exactement. C'est des gens très sympathiques. Donc, on les installe à l'hôtel. Et, comme d'habitude, dans les frigidaires, c'est des grands hôtels quand même, dans les frigidaires, il y a toujours de l'alcool. Hein, il y a des petits rhum charrette, il y a le rhum, et ainsi de suite. Bref. Donc, par principe, je m'excuse auprès de ces gens. Je dis, ben, je suis désolé, c'est comme ça. Bon, maintenant, si vous voulez qu'on récupère, on met dans un sachet, et puis on redépose. Il m'a dit qu'il n'y a aucun problème, laisse. Tu peux laisser. Il m'a dit que l'homme intelligent, c'est pas celui qui s'abstient du péché, parce que c'est un péché. C'est celui qui s'abstient d'un péché, parce qu'il a intégré les conséquences de ce péché. Bon, c'est dit en français, mais en arabe c'est plus beau. Il m'a dit, al-farq bayn al-man' wal-imtina'. Al-man' c'est interdire. Tu fais pas parce que c'est interdit. Mais dans ton cœur, ça aurait été tellement cool de pouvoir se saouler en boîte de nuit, d'être accompagné de 3 filles et de sortir comme ça. Comment j'aurais aimé, mais dommage, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'homme ne le fait pas, mais intérieurement, il n'est pas convaincu que c'est mauvais. Et l'autre côté, le imtina, c'est tu t'empêches toi-même de le faire parce que tu as intégré, tu as le ilm, la connaissance qui vient avec. Tu sais que ce sont des actions qui sont mauvaises pour nous et ce sont des actions qui provoquent la colère d'Allah. Je ne peux pas me permettre de provoquer la colère d'Allah. Je ne peux pas me mettre dans une situation où Allah serait mécontent de moi. Si on arrive à développer cette approche, cet éveil spirituel, ben, ça, ce sont des valeurs sûres. Parce que ce sont des valeurs durables. Il n'y a pas plus durable que ça. Parce que si ça c'est installé dans le cœur, c'est ancré dans notre cœur, il n'y aura pas de spiritualité Ramadan et après Ramadan. Si une personne a intégré le fait qu'Allah me voit, muraqabatullah, si quelqu'un a intégré le fait que je ne dois pas faire de péché pour ne pas désobéir à Allah, je ne peux pas me permettre de désobéir à Allah, j'ai honte, al-haya min Allah, celui qui l'intègre durant ce mois béni, il garde cette qualité. Parce qu'il sait que c'est le même Seigneur, ce sont les mêmes interdits, et ce sont des qualités spirituelles, très profondes, qu'il va garder, et ça, ça lui sera profitable pour longtemps. Écoutez, je disais ça au Latanier, un dars d'un cher anglophone, je ne sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais c'est pas mal du tout, je te donne le lien, sous-titré en français, c'était pas mal, parce que c'était en plus illustré par des images, c'est un montage, d'accord. Et il disait que le Ramadan, c'est un tremplin. C'est un tremplin, ça te permet de prendre du recul et de faire un bond gigantesque. Et quand tu fais un bond, hein, tu grimpes, puis peut-être parfois tu faiblis. Parce que l'homme n'est pas parfait, nous ne sommes pas des anges. Et ça, et du coup la métaphore, ça va dans les deux sens. Quand l'ange il vole, il ne tombe pas. L'homme il prend son envol, il y a des fois où il tient, mais il y a des fois où il faiblit. Et Allah, dans sa clémence, nous donne un Ramadan tous les ans. C'est-à-dire que après le Ramadan, au plus tu as cumulé de bonnes actions et de résolutions, tu as pu t'éloigner du haram, ça va te donner une puissance spirituelle qui te permettra de bien avancer Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja, durant les autres mois de l'année. Et quand tu es dans cette impulsion, si à un moment donné, il y a un peu de faiblesse, tu perds un peu d'altitude et la foi est comme ça, ça augmente, ça diminue, nous sommes des hommes. Allah te donne un autre Ramadan ensuite pour te redonner l'impulsion. Mais sache que, c'est ce que le cheikh disait, si tu as bien profité de ce mois béni, si tu as fait ce qu'il fallait faire, ça te permettra normalement de tenir jusqu'au prochain Ramadan. Et là, tu vas puiser encore plus d'énergie spirituelle pour te permettre d'atteindre l'année d'ensuite. Et c'est où la fin du parcours ? La mort. La fin du parcours, c'est la mort. On ne fait pas les bonnes œuvres durant le mois béni pour attendre la fin du Ramadan. On le fait pour attendre la mort. Le but, c'est retourner vers Allah avec ses bonnes œuvres. Parce qu'il n'y a pas plus grande récompense, il n'y a pas plus grand honneur pour un homme que de mourir dans la droiture, de mourir dans le droit chemin. Petite parenthèse, quand on voit une personne âgée et qu'on fait doigt qu'Allah t'accorde longue vie, ce doigt n'est pas complet. On a déjà expliqué ça. Quand on dit à une personne, Allah accorde longue vie, en créant, on lui dit, Allah accorde longue vie, on doit préciser, fitar, dans l'obéissance, dans les bonnes œuvres. Parce que le sharaf, l'honneur, le izza pour un croyant, c'est d'avoir une vie, une longue vie dans l'obéissance. Parce que plus tu auras cumulé d'années de salat, d'années de ramadan, d'années de lecture du Coran, ce sont là des trésors que tu emmènes avec toi et tu retrouveras auprès d'Allah. Il est mieux de vivre longtemps dans les bonnes œuvres que de mourir jeune, même dans le droit chemin. Parce que celui qui meurt à 25 ans, celui qui meurt à 60 ans, ils n'auront pas accompli le même nombre de bonnes actions. D'où le hadith qu'on explique souvent au début du mois, rapporté par Imam Ahmad, en ce jeune qui est décédé dans le chemin d'Allah, et ses deux amis qui sont décédés de mort naturelle, mais longtemps après, ces deux amis ont eu un grade supérieur parce qu'ils ont fait, ils ont eu l'occasion de faire plus de bonnes actions. Donc ce sont là des qualités du cœur à développer. Al-haya min Allah, ça on a plus ou moins dit, avoir honte de désobéir à Allah et garder cette qualité tout le temps. Iradatu wajhillah, rechercher le contentement d'Allah. Quand tu fais une bonne action, motive-toi. Trouve la motivation pour la bonne action. Il y a des fois où on traîne les savates, on traîne les pieds pour venir à la masjid pour salat al-dhahr, oui ou non? C'est clair, vous êtes fatigué, il fait chaud, sort de l'école ou du travail, venir à la prière de dhahr durant le mois de Ramadan, parfois c'est difficile, on le fait. Mais il n'y a pas trop la motivation. Mais réalise que ce que je suis en train de faire, Allah sera content de moi. Allah sera satisfait de moi. Allah va me vanter auprès des anges. Allah va peut-être m'accepter toute ma vie. Dire, trouvons les sources de motivation, trouvons tout ce qui nous permettront d'avoir cette envie d'accomplir les bonnes actions. Il suffit de se dire qu'Allah, pendant ce laps de temps, sera satisfait de moi. Et quel plus grand honneur pour un musulman que de savoir qu'Allah est content, satisfait de lui. Et quatrième point, on va dire dernier point plutôt, penser souvent à l'enfer. Penser au feu de l'enfer et réaliser que durant ce mois, je peux m'éloigner d'une telle distance du Jahannam si je mène bien mon Ramadan du début jusqu'à la fin. Et le jour de Qiyama, le souhait de chaque croyant, c'est « Faman zuhziha anin nar ». Ça c'est l'objectif. Celui qui s'éloigne, qui arrive à être éloigné en ce sens du feu de l'enfer, et quand on est éloigné du feu de l'enfer, qu'est-ce qui se passe après? En fait, là-haut, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Donc, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Donc, il y a que ça de paradis, فَقَدْ فَازَ. C'est ça le succès, c'est ça la victoire. Et ce mois béni, c'est parmi les vertus, c'est on peut s'éloigner du Jahannam. Donc, on essaie d'intégrer la pensée du Jahannam et se dire que j'ai besoin de m'éloigner de l'enfer. Et ce mois béni, je le fais correctement pour qu'Allah me protège du feu de l'enfer. On va s'arrêter là pour ce soir. Inch'Allah, si vous me permettez juste deux petits points, hein, deux points, on ne tombe pas dans les pièges de Shaitan, on est à 40 minutes, 38 minutes, encore 2 minutes. Attention aux pièges de Shaitan, premier piège du diable, c'est nous faire perdre notre temps. On va dire que oui, on a dit qu'il n'interfère pas durant le mois, oui, mais il t'a habitué à perdre ton temps. En fait, on est habitué à perdre notre temps. Combien de temps on passe sur Facebook tous les jours? Combien de temps, après? Tu n'as pas Facebook? Masha'Allah. Combien de temps on passe sur WhatsApp? Combien de temps on passe? C'est obsessionnel. Quelqu'un me fait la remarque aujourd'hui, il dit, combien de temps tu vas vérifier tes notifications? C'est comme ça. Tous les deux minutes, tu tires ton portable, est-ce que quelqu'un envoie un message, qu'il y a quelque chose et tout. On perd beaucoup de temps. En fait, le diable nous a fait intégrer ça. C'est pas une position extrême hein, de se dire que c'est Shaitan. Moi, je dis très clairement, tout ça, c'est des waswasa de Shaitan. Son but, c'est de nous faire perdre notre temps. Parce que notre temps, c'est trop précieux. Notre temps, c'est l'obtention du Jannah, du Ridwanullah. Et Shaitan veut exactement le contraire. Qu'on perde du temps pour qu'on n'arrive pas, pour qu'on ne puisse pas atteindre notre objectif. Donc, malheureusement, on est dans cette spirale de la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans une spirale de perte de temps. Mais durant le mois béni, on essaie de contrôler son temps. Et, si possible, on essaie, c'est un peu dur ce que je demande, on arrête tous les loisirs. PS4, oui, Non. Et tout ce qui vient avec, la télé, bien sûr, Internet, Facebook, réseaux sociaux, Instagram, ainsi de suite, on arrête. Dans la mesure du possible, sauf urgence, mais dans la mesure du possible, on essaie d'arrêter parce que tout ça, ce sont des aspirateurs de temps et on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Autre point concernant le temps passé, on essaie, et ça, on le dit entre nous, puis peut-être si ça se saura par la suite, on fait en sorte que notre épouse perde le moins de temps possible dans la cuisine. Je me rappelle, quand j'avais dit ça une fois, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Pas ici, hein, ils disent, oui, mais on ne mange plus alors. Je n'ai pas dit qu'on ne mange plus, mais on limite un peu le temps. Je ne sais pas comment ça se passe dans la communauté comorienne, mais chez les Indiens, les puristes, la femme se lève, se réveille une heure et demie avant le repas. Pas pour faire qiyam al-layl, hein. Elle prépare quoi? Kari khichdi. Mes parents, ils mangent encore ça. C'est des repas très, très indiens. Bref, on se dit que, subhanallah, on ne peut pas demander à notre maman ou à notre épouse de rester une heure de temps devant les fourneaux à ces deux-ci, quand même. Certes, c'est une bonne action, sans le moindre doute. Faire le khidma de sa famille, c'est noble pour la femme. Mais on essaie de faire simple. Parce que le pire, c'est que ça, c'est un moment d'acceptation des droits. Akhir thuluthul layl. Dernier tiers de la nuit, toute l'année, c'est magnifique. Et durant le mois béni, c'est encore plus fort. Si Akhir thuluthul layl, ce moment béni, notre épouse est devant le fourneau en train de faire des trucs parce qu'on a envie de manger, on est un peu compliqué dans ce qu'on mange et tout, c'est dommage. Et au moment de rompre le jeûne, ce qui est dommage aussi, ça je pense dans toutes les communautés, c'est comme ça, 30 minutes avant, elle est en train de préparer les fritures, les samoussas, les je sais pas quoi, ainsi de suite. Mais il y a Urti, c'est le moment où les doigts sont acceptés. C'est le moment où les doigts sont acceptés. Dis à ton épouse, s'il y a des trucs à faire avant ou plus tard, je ne sais pas, organisez-vous comme vous voulez, mais au moment de la rupture du jeûne, madame doit être sur le tapis de prière, sur le sajjada, sur le musalla, en train de demander doigts. Et ça, je le dis, ça ne plaît pas à tout le monde, mais si nous estimons que la place de madame, c'est devant la cuisinière, devant la marmite et tout, ben, qu'on ne s'attende pas ensuite à ce qu'elle donne l'éducation islamique adaptée à nos enfants. Si on ne donne pas l'occasion à notre épouse de se ressourcer spirituellement et de faire les bonnes actions comme nous on aimerait le faire, après on attend un résultat magnifique, on attend qu'elle donne l'éducation islamique correcte à nos enfants. Il faut qu'elle ait son temps de ibadah. Il faut qu'on apprenne à être un peu plus simple, un peu plus modéré dans nos besoins concernant la nourriture, ainsi de suite, qu'on se contente du minimum, mais que l'épouse puisse profiter pleinement, spirituellement, de ce mois béni. Et puis, dernier point, ça on va le rappeler durant le mois béni, le gaspillage, attention. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit « Innal mubadhirina kanu ikhwan al-shayatan » On se sent que ceux qui font du gaspillage, ce sont les frères de Shaitan. Il y avait un article encore, aujourd'hui, sur Internet, 10 millions de tonnes de nourriture gaspillées tous les ans en France. 10 millions de tonnes de nourriture qu'on peut manger, qu'on peut consommer. On ne parle pas de produits de denrées avariées qu'on peut consommer, qui est jeté. Supermarché, restaurant, ainsi de suite. Le gaspillage, sur le plan humain, c'est inacceptable. Sur le plan spirituel, c'est inacceptable. Celui qui gaspille, il devient presque comme le Ikhwan al-Shayatin, comme les frères du diable. Donc, durant le mois béni, on fait en sorte de limiter les quotas de nourriture. Si on est capable de manger, je garde des exemples que je maîtrise, hein, si on mange 5 samoussas, on n'a pas à préparer une dizaine. Si à chaque fois on jette, si le pain, on sait que le matin on mange telle portion de pain, on n'achète pas beaucoup. Bref, de manière générale, chacun il saura comment il consomme. Maintenant, je pouvais tout manger, manger tout. Il n'y a pas de mal. Mais évitons le gaspillage. On ne jette pas la nourriture. Et point très important, partagez la nourriture à nos voisins, à nos proches, que les gens soient pauvres ou non. Des fois, je dis que oui, mais moi-même, je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas une question d'avoir ou de ne pas avoir. Le partage ne nécessite pas beaucoup. On a vu pas mal de hadiths là-dessus. Donne, envoie quelque chose. Et quand on envoie, bien sûr, on partage avant que nous mangeons nous-mêmes. On ne donne pas les restes. Ce n'est pas que bon, on a resté des trucs là, personne ne mange plus, on va donner au voisin. Non. C'est avant de passer à table, tu prends une portion, tu donnes à ton voisin. Ce sont là des gestes extrêmement importants. Qu'Allah nous accepte. On était un peu long, on s'excuse parce que c'est à peu près le dernier lundi. Et la semaine prochaine, s'il y a Tarawih, on fera un petit programme de 15 minutes. S'il n'y a pas, on va essayer d'insister sur les actions, principalement le Sehri, le Iftar et la prière de Tarawih pour pouvoir bien commencer, Inch'Allah, dès le premier jour. Qu'Allah nous accepte tous, donne la possibilité de, encore une fois, de passer ce mois dans l'obéissance et de, d'atteindre, Inch'Allah, tous ces objectifs. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Jazakum Allah khair.